Alors, comment se fait-il que la richesse puisse correspondre à la misère? Enfin, je veux dire la richesse de ceux qui ne travaillent peut-être pas tant que cela, messieurs nos dominants, et que la richesse puisse provenir de la misère. Eh bien, pourtant, Adam Smith l'avait écrit en 1776, au départ, le produit du travail appartient tout entier au travailleur. Et puis vient la seconde étape. Et la seconde étape, c'est ceci. Aussitôt qu'il y aura des capitaux accumulés dans les mains de quelques particuliers, certains d'entre eux emploieront naturellement ces capitaux à mettre en œuvre des gens industrieux auxquels ils fourniront des matériaux et des subsistances afin de faire un profit sur la vente de leurs produits ou sur ce que le travail de ces ouvriers ajoute de valeur aux matériaux. Comme vous le voyez, cette transformation est essentielle, mais bien sûr, elle dépasse tout ce qu'on peut en dire ordinairement. Parce que lorsqu'on parle d'exploitation du travail, évidemment, on fait apparaître un phénomène qui est tel qu'on voit la personne qui travaille, on imagine qu'elle souffre et qu'elle n'a pas la rémunération qui correspond. Voilà. Ça va seulement un tout petit peu plus loin, et c'est ici qu'il faut décidément mettre le doigt. En effet, voilà comment les choses se passent. Il y a donc dans une société donnée des personnes qui disposent à la fois des outils de travail, des matériaux et puis des subsistances nécessaires aux gens qu'ils vont employer. On aboutit à la signature d'un contrat de travail. Prenons les choses comme ceci. En échange d'une tâche à effectuer, la personne, le travailleur, va recevoir un salaire. Cette personne va se mettre au travail et le fruit de ce travail, le produit, appartiendra à celui qui est propriétaire des moyens. Eh bien, c'est bien ce que Adam Smith avait constaté, lui qui écrivait, la valeur que les ouvriers ajoutent à la matière se résout alors en deux parties, dont l'une paye leur salaire et l'autre les profits que fait l'entrepreneur sur la somme des fonds qui lui ont servi à avancer ses salaires et la matière à travailler. Reprenons le processus. Au départ, nous avons le propriétaire des moyens de production, il verse un salaire, et à la fin, nous avons le propriétaire des produits. C'est donc la question de la propriété qui se trouve immédiatement posée. Dans la société comme elle est aujourd'hui, la propriété fonctionne comme je viens de dire. C'est-à-dire que celui qui est propriétaire des moyens de production, à la sortie, est propriétaire du produit. Étant propriétaire du produit et du départ de la manœuvre, il a le choix de produire ce qu'il veut produire. Il a le choix, jusqu'à un certain point, d'imposer des conditions aux travailleurs. Quelle est la place du travailleur dans ce système ? Le travailleur, l'homme libre, c'est d'abord, c'est essentiellement, ça n'est que un chômeur. Le chômage n'est pas un phénomène superfétatoire qui s'ajouterait, il est à la base. Dans certaines époques, on ne voit pas qu'entrant dans la vie de travail, on est d'abord chômeur. Parce qu'on a l'impression qu'on est d'abord travailleur, puisque il y a des tâches à accomplir et qu'on va trouver sa place quelquefois très rapidement et quelquefois dans des conditions qui ne paraissent pas si mauvaises. Mais en réalité, sitôt que les choses se tendent, on découvre qu'on est chômeur et qu'on n'est que cela. C'est-à-dire que dans ce moment où il s'agit de prendre un travail, on est à l'extérieur de tout ce que la société humaine a pu apporter de richesse. On va devoir se saisir du travail. Et quelquefois, il faut se battre pour obtenir le travail. Et en particulier, il faut battre à plate couture la concurrence. Donc, on se vend moins cher. Ou alors, on arrive sur le marché du travail avec des diplômes. Alors, on passera devant, peut-être. Ça dépend des moments. Ça dépend. Et puis, à certains moments, ça ne dépend plus du tout. Et voilà. Et là, le système capitaliste dit sa vérité.